RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Apparu au mois de décembre 2019 dans la province de Hubei en Chine, la Covid-19 a provoqué une crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, quasiment un an après son apparition, nous vous proposons de faire un bilan de la situation sanitaire au sein de l'Union européenne. Pour échanger sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Rotti, chef du service presse et médias de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Monsieur Rotti.
Bonjour.
Alors tout d'abord, quelle est la situation épidémique dans l'Union européenne à l'heure actuelle ? Et existe-t-il un système de mesures commun pour mesurer l'évolution de la Covid-19 ?
Alors la situation épidémique est malheureusement plutôt mauvaise, puisque la plupart des pays européens aujourd'hui sont confrontés à la deuxième vague de l'épidémie. Pour certains pays qui avaient été un peu épargnés, notamment en Europe de l'Est, par la première vague, ces situations et les taux d'incidence de la maladie sont particulièrement importants. Mais globalement, tous les pays européens font face à une recrudescence de l'épidémie et doivent prendre des mesures de protection sanitaire assez forte et assez contraignante. Il y a plusieurs types de confinement, de couvre-feu, de fermeture de commerces, de bars, de restaurants. Et ça, malheureusement, ça arrive un peu partout en Europe. Il y a effectivement une approche européenne de suivi de l'évolution de l'épidémie qui est faite par le Centre européen de prévention des maladies infectieuses, le CDC, qui est une agence européenne qui est basée à Stockholm et qui très régulièrement compile toutes les données épidémiologiques de chacun des États membres pour évaluer le nombre de tests qui est fait dans chaque pays, le taux de positivité des tests et quelques grands indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie. Et cette agence a plusieurs rôles, mais le principal, c'est avec toutes ces données d'établir un consensus scientifique sur comment on suit l'évolution de l'épidémie, et c'est notamment cette agence qui a défini ce que c'est un cas de coronavirus au niveau européen, c'est-à-dire pour s'assurer que on parlait bien de la même chose dans tous les pays, et que quand on disait qu'on avait tant de cas de coronavirus, on les comptait de la même manière, et ça c'est très important pour pouvoir comparer les situations. Et c'est aussi une agence qui produit une carte de la situation de l'épidémie en Europe, en définissant les zones vertes, oranges, rouges, en fonction de la situation de transmission du virus dans les régions. Et malheureusement, en ce moment, l'essentiel de l'Europe, à part tout au nord en Finlande et tout au sud en Grèce, est en zone complètement rouge.
D'accord. Donc on sait que la santé n'est pas un domaine de compétences propre à l'Union européenne. Alors que peut faire concrètement la Commission européenne dans la gestion de la Covid-19 sur le territoire de l'Union européenne ?
Alors la santé est un domaine de compétences de l'Union européenne. C'est en revanche pas un des domaines où l'Union européenne a une compétence exclusive ou partagée. C'est ce qu'on appelle un domaine de compétences d'appoint. Donc c'est pas la responsabilité principale de l'Union européenne de mener les politiques de santé, mais il y a quand même la reconnaissance depuis assez longtemps que c'est intéressant et c'est utile de discuter au niveau européen de grands problèmes de santé publique comme les épidémies, la résistance aux antibiotiques, la vaccination et choses comme ça. Il y a quand même un socle de travail sur la santé qui existe depuis assez longtemps, mais qui a été complètement renversé par l'ampleur de l'épidémie auquel on a été confronté, et on a vu que il pouvait y avoir une vraie valeur ajoutée européenne dans la gestion d'une telle épidémie, qu'il y avait la possibilité de mener énormément d'actions au niveau européen de coordination et d'appui pour aider les États membres à faire face à la pandémie. Alors il y en a beaucoup, mais globalement on peut citer déjà toute la solidarité intra-européenne qui a pu avoir lieu, alors qui a peut-être mis un peu de temps à se mettre en place, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus naturelle sur se partager les ressources, se partager les masques, se partager le matériel de protection, les acheter en commun, s'assurer qu'ils sont là où on en a le plus besoin, offrir des services de gestion de santé, c'est-à-dire transférer des patients. Il y a eu pas mal de transferts de patients de pays voisins dans l'Union européenne. Et donc, d'un point de vue purement santé, on a vu qu'il y avait une vraie valeur européenne qui pouvait être utile à chacun des pays. À côté de ça, face à cette crise, et au-delà de l'aide d'urgence qu'on a pu apporter et qu'on a pu coordonner entre les différents États membres, cette épidémie a provoqué plein de questions qu'on s'était jamais posées auparavant sur qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes en temps de pandémie, comment on la gère, est-ce qu'il faut la maintenir, est-ce qu'il faut pas la maintenir, comment on maintient la libre circulation des biens entre les différents pays européens, parce que même si on est confiné, il faut quand même aller faire ses courses, et donc il faut quand même s'assurer que les produits sont disponibles. Comment on développe ensemble au niveau européen des vaccins, des traitements, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite dans la lutte contre la pandémie. Donc toutes ces questions qui s'étaient vraiment jamais posées au niveau européen, elles se sont posées suite à cette première vague. Et là, petit à petit, on construit les étapes qui font en sorte qu'on est mieux armé pour lutter contre la deuxième vague au niveau européen. On a, par exemple, énormément développé tout ce qui est achat de masques, de matériel essentiel. On a des réserves stratégiques au niveau européen pour les donner aux pays qui en ont besoin. Par exemple, là, récemment, la France avait du mal à trouver des masques, et donc l'Union européenne a pu transférer des masques de sa réserve stratégique à la France pour des gants chirurgicaux pour pouvoir combler un manque français. Donc voilà, on a mis en place les outils petit à petit, mais il reste encore pas mal de choses à faire, bien sûr.
Alors, vous parliez de la recherche et d'un éventuel vaccin. Où en est la recherche européenne sur ce fameux vaccin contre la Covid-19 ou alors pour des traitements efficaces contre la Covid-19?
Alors, il y a eu un effort sans précédent de recherche au niveau européen et même au niveau mondial pour lutter contre le coronavirus. Au niveau européen, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réorienter tous les programmes de recherche extrêmement importants qu'on a, notamment le programme Horizon 2020, pour le focaliser sur la recherche pour lutter contre le coronavirus, que ce soit sur, il y a en gros trois grands axes de recherche, le diagnostic, améliorer les tests de diagnostic, les traitements et le vaccin. Donc on a financé et on a lancé des nouveaux projets pour au niveau européen qui sont coordonnés notamment par l'INSERM qui coordonne un des grands projets sur la recherche d'un traitement. Là-dessus, là où ça avance le mieux, c'est effectivement sur le vaccin où il y a eu une mobilisation mondiale mais particulièrement européenne. Avec plusieurs entreprises, des start-up européennes qui avaient des nouvelles manières de vacciner, qui ont pu se lancer dans des essais cliniques qui sont assez, dont les retours sont assez positifs pour l'instant. Donc, il y a eu une mobilisation massive. On a essayé, nous, au niveau européen, d'apporter les fonds nécessaires, de s'assurer que les informations étaient bien partagées entre les différentes équipes de recherche au niveau européen. Donc on a créé un espace de partage des informations et sur la recherche sur le coronavirus pour que à chaque fois qu'une équipe de chercheurs ou qu'elle soit en Europe trouvait quelque chose, les autres pouvaient y avoir accès et s'en inspirer et commencer à répliquer les expériences et les choses comme ça. Pour l'instant, sur le traitement, les différents essais cliniques qu'on a menés au niveau européen n'ont pas forcément abouti à identifier des médicaments qui sont particulièrement efficaces contre la maladie. En revanche, ça a apporté des meilleurs fruits sur les vaccins.
Pour rester toujours sur la thématique du vaccin, donc plusieurs entreprises, notamment américaines, ont déclaré avoir un vaccin quasiment 95% efficace. Quel est le rôle de la Commission européenne quant à l'approvisionnement de doses de vaccins qui viendraient d'une puissance étrangère et pour que elles soient réparties entre tous les pays membres?
Alors là-dessus, je vais me permettre de vous corriger un peu. C'est pas des entreprises américaines qui ont déclaré qu'elles avaient des résultats positifs sur le vaccin. Il y a pour l'instant deux entreprises qui ont déclaré des essais cliniques positifs. Il y a Moderna, qui est effectivement pour le coup une boîte américaine, mais l'autre c'est BioNTech Pfizer. Et la partie, l'intelligence, on va dire, sur le vaccin, dans le vaccin BioNTech-Pfizer, elle vient de BioNTech, qui est une entreprise européenne, qui a été financée par l'Union européenne et les programmes de recherche européens, dont le fondateur a reçu une bourse d'excellence du programme de recherche européen. Donc, l'intelligence et les idées sur le vaccin sont au moins autant européennes qu'américaines aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a un vrai enjeu qui est double, qui est un, de faire en sorte qu'on découvre collectivement au niveau mondial un vaccin le plus vite possible, et deuxièmement, que les citoyens européens puissent avoir accès à ce vaccin dès qu'il est validé et dès qu'il aura été autorisé. Et donc pour ça, les pays européens sont regroupés et on dit on va essayer de négocier avec les différents laboratoires pharmaceutiques pour pré-réserver des doses de vaccins. Donc en gros, on va donner de l'argent à ces laboratoires pour les aider à faire leurs essais cliniques, à aller plus vite, à développer leurs outils de production pour que, si leur vaccin fonctionne, ils soient très vite capables de le produire en très grande quantité. En échange de quoi, ils nous en donneront une partie à nous, pays européens. Et on s'assure aussi que ces vaccins sont produits en Europe, parce qu'on veut pouvoir maîtriser aussi l'approvisionnement au niveau des États membres. Donc il y a une vraie action très, très importante de l'Union européenne, un engagement pour être sûr que, voilà, là en ce moment on négocie avec 6 laboratoires pharmaceutiques, c'est globalement des laboratoires soit européens, soit américains, mais qui sont en fait des laboratoires mondiaux avec des outils de production aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Et donc on négocie avec eux pour s'assurer que les pays de l'Union européenne auront bien accès et réserve d'ores et déjà des doses de vaccins si ces vaccins sont efficaces. Et on fait aussi, et on demande avec à tous les laboratoires avec qui on signe, qu'ils mettent aussi à disposition, à des bonnes conditions, le vaccin qu'ils trouveront à des pays tiers. On est assez persuadé que pour que l'épidémie, la pandémie plutôt, s'arrête, il faut que les Européens soient vaccinés, il faut que les Américains soient vaccinés, mais il faut que le monde entier soit vacciné. Il faut aussi que les pays qui ont peut-être moins de moyens que les pays européens aient aussi la capacité d'acheter des doses, de vacciner leur population pour pouvoir véritablement tourner la page de cette épidémie.
Merci Monsieur Rotti pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique le 3 décembre.
Merci à vous.